Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et sur internet le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour, je reçois Alain Aubanel. Vous travaillez dans la distillerie des Quatre Vallées à Chamaloc et aujourd'hui on va parler lavande, distillerie pourquoi pas, culture de la lavande et puis surtout on va parler des abeilles et d'un nouveau système qu'on a vu se mettre en place sur quelques vidéos ici et là qui s'appelle le chasse-abeilles. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors voilà, j'ai un peu tout mélangé dès le début mais en tout cas on sait de quoi on parle. Vous faites pousser de la lavande et ensuite vous vous occupez de plein de choses dans la suite de la lavande, c'est-à-dire tout le traitement qu'elle subit pour devenir de l'huile essentielle, de l'hydrolat et tout plein d'autres produits sympathiques qu'on voit par ici. Mais quand on récolte la lavande, il y a des abeilles dans ces fleurs de lavande et vous avez pensé, vous n'avez pas pensé directement vous à faire quelque chose, mais vous avez dit que ce système n'était pas idiot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Depuis toujours, les abeilles, pour commencer, et après les apiculteurs, sont toujours venus sur les lavandes, parce que c'est une plante qui est très mielifière et qui fait un miel de qualité. Et depuis toujours, depuis qu'on a la récolte mécanique, quand on récolte, il y a des abeilles qui passent dans les machines, et ça faisait quand même une mortalité non négligeable. Donc bon, c'est pas catastrophique, mais il y avait quand même pas mal d'abeilles qui passaient dans les machines.
C'était à la fois peut-être un problème, on le sait que la situation de l'abeille elle est délicate. Après nous on a tendance, le grand public, à pas connaître les chiffres et du coup à avoir l'impression que dès l'instant que 3 abeilles meurent, on est à 2 doigts de la catastrophe, alors qu'on parle en dizaines de milliers d'insectes, là on est d'accord. Mais est-ce que ça avait une incidence aussi dans la récolte de la lavande d'avoir des insectes dedans ou...
Par rapport à la récolte de la lavande, les abeilles nous apportent rien, nous enlèvent rien du tout. Enfin, clairement, qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là, ça ne change rien pour la récolte. Par contre, pour d'autres cultures et pour la biodiversité, pour l'intérêt général, l'abeille, on considère que c'est quand même un animal qui est très important. Et à partir du moment où on avait la possibilité de faire quelque chose pour sauver des abeilles et aussi pour faciliter la vie des apiculteurs, il fallait le faire, on ne s'est pas posé la question.
Alors, il fallait le faire, vous avez testé plusieurs systèmes, il y a eu plusieurs inventions qui ont été testées, mais rien qui avait vraiment séduit les gens qui travaillent dans les lavandes. Et là, ce système-là, il a quoi de plus sympa et de plus pratique ?
Le système actuel, il a l'avantage d'être extrêmement simple, de ne pas abîmer les fleurs, de ne pas cacher la visibilité au chauffeur de la machine et d'être très efficace par rapport aux abeilles. Parce que ce système, ce qu'on appelle le chasse-abeille, ça fait des années et des années, pour ne pas dire peut-être 10 ans qu'on en parle, et on n'a jamais trouvé quelque chose qui soit vraiment efficace, simple à installer, qui ne gêne pas la visibilité au chauffeur.
Et pas très coûteux aussi, j'imagine.
Le prix, ce n'était pas notre principal critère. Nous, on avait 2 critères. C'était il fallait que ce soit efficace et que ce soit acceptable par les chauffeurs de la machine. Parce qu'on a essayé plein de systèmes avec des sangles qui traînaient, avec des chaînes, avec des bois. Et en général, quand on installait ce système-là, les chauffeurs, ils gardaient ça 3 minutes sur la machine. Ça leur cachait la vue, ils ne voyaient plus ce qu'ils faisaient. Donc les gars, ils nous disaient non, c'est pas possible, dégagez-moi ça, quoi. Et le système actuel a fait, il est très simple, on ne comprend même pas pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Mais c'est juste 2 barres, 2 tubes qui sont réglables, qui peignent les fleurs. Donc ça fait envoler les abeilles. Et on a quasiment, je ne dis pas qu'on a une efficacité peut-être de 100%, mais on a quasiment plus d'abeilles qui rentrent dans les machines.
Oui, donc dans un département voisin, ça a été un petit peu plus chiffré, on va dire, mais bon, c'est un peu aléatoire, c'est compliqué. Il disait au moins 50% d'abeilles sauvées. Et vous disiez que ça fonctionne sur deux principes, c'est que d'abord, c'est peigné. Donc là, à ce moment-là, il y a des abeilles qui s'en vont. Et puis, l'effet de rebond, ensuite, fait que l'abeille va éventuellement s'envoler dans le mouvement de retour de la fleur.
Voilà, il y a deux niveaux d'effarouchement. Quand le tube peigne la fleur, ben voilà, ça fait une action physique, enfin, l'abeille s'en va. Et quand la fleur qui est, enfin, la tige qui est couchée par le premier tube, enfin, quand la fleur sort du tube, en fait, ça fait un effet d'impulsion. Et s'il reste des abeilles, en fait, ça les reprojette en l'air et après elles s'envolent. Et je pense qu'on est à beaucoup plus de 50% d'abeilles sauvées. Parce que bon, on a quand même essayé de regarder ça comme il faut. Il y a très très peu d'abeilles qui arrivent à rester encore sur les plantes et à rentrer dans la machine.
C'est un système qui va se généraliser, vous pensez ?
Oui, parce que aujourd'hui, le système, il est facile d'installation. Et puis, on a quand même un argument aussi qui est un petit peu solide, c'est qu'au niveau de la filière, on a décidé que ça ne devait rien coûter aux producteurs. Donc, on a trouvé des financements pour que le système soit gratuit pour l'utilisateur. Donc, au niveau de la Drôme, il y a le Crédit Agricole qui prend une grosse partie à sa charge. Et après, le reste, c'est du financement de filière.
Alors, ça veut dire que la modernisation là, à ce niveau-là, ne va pas coûter aux producteurs et aux gens qui exploitent les lavandes ?
Non, non, non. Le but du jeu, c'était que ça ne coûte rien aux gens, de façon à ce que tout le monde puisse l'avoir. Bon, cette année, dans la Drôme, je crois qu'on a équipé 7 machines. Mais l'idée, c'est de l'année prochaine, voilà, d'en équiper peut-être 20 ou 25. Et puis après, je suis assez convaincu que bon, ça peut prendre 2 ans ou 3 ans, mais que la totalité des machines seront équipées.
Alors oui, pour donner un indice de chiffres comme ça, quand vous dites quelques machines par-ci par-là, c'est que tous les producteurs de lavande n'ont pas leur machine et que ce sont souvent des machines qui sont mutualisées et utilisées par plusieurs producteurs.
Oui, parce qu'une machine qui fait une saison complète, ça va récolter entre 100 et 200 hectares par an, suivant le type de la machine. Donc voilà, pour vous donner une idée, dans le Diwa, il y a 3 machines qui tournent. Alors ouais. Que bon, il y a quand même pas mal de surface. C'est ou des entreprises privées ou des coopératives, ou alors bon, quelques producteurs qui ont leur propre machine, mais dans des secteurs un petit peu plus isolés, comme le Haut-Diwa.
Vous disiez tout à l'heure, effectivement, la présence de l'abeille, si elle enlève, l'absence ou la présence de l'abeille enlève rien à votre récolte, à vous directement. Bien que j'imagine que la pollinisation sans abeilles, ça va devenir compliqué, mais vous parliez hors antenne de l'entente avec les apiculteurs et l'importance de cette entente. Forcément, ça doit aider à mieux s'entendre de ne pas tuer les abeilles.
C'est évident parce que la prise de conscience, elle ne se fait pas toute seule. Moi, quand j'ai commencé à travailler, les abeilles dans les lavandes, ben, au début, quand on coupait à la main ou quand on faisait les bottes qu'on chargeait à la main, ben, on se faisait piquer tous les jours. On avait plutôt tendance à dire, bon, ben, les abeilles, s'il y en avait moins, ça serait plus facile pour nous. Après, voilà, petit à petit, on s'aperçoit que c'est pas un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, le fait d'avoir des bonnes relations avec les apiculteurs, bon, voilà, c'est... Les gens qui viennent chez nous, ils viennent depuis des années, voire des dizaines d'années. On les voit chaque année. Voilà, c'est des collègues. On essaye de, quand on peut, se rendre service. Et puis, ce qu'il faut aussi bien intégrer, c'est qu'un apiculteur, enfin, pour moi, c'est un agriculteur comme un autre, c'est un éleveur comme un autre. Et voilà, enfin, pour moi, avoir des moutons, des vaches ou des abeilles, c'est la même chose, quoi. Quand on a un mouton qui meurt, on n'est pas content. Quand on a une ruche qui meurt, eh ben, c'est le même type de... Enfin, c'est aussi une catastrophe, quoi.
Vous essayez de travailler tous ensemble sur le territoire dans l'intelligence.
Mais bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas... Enfin, je pense qu'on a un petit peu tous j'allais dire les mêmes intérêts. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, enfin... Pour moi, l'abeille, c'est important. Pour nous, l'abeille, c'est important. Et puis, en plus, quand c'est facile, voilà, il faudrait qu'on révolutionne toute notre façon de travailler. Ça serait un petit peu plus compliqué, peut-être. Là, enfin, on a un système, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, personne ne peut dire « je veux, le veux pas » parce que c'est trop compliqué, ça va me coûter trop cher ou c'est pas efficace, quoi.
Ça fait combien de temps que justement dans le métier, vous disiez tout à l'heure que quand on cueille les lavandes à la main et qu'on se fait piquer, on se dit saleté d'abeille, ce serait bien qu'il y en ait moins. Mais effectivement, cette prise de conscience là de l'importance de l'abeille dans votre métier, elle a dû arriver avant celle du grand public, j'imagine. On ne se pose pas les mêmes questions dans sa pratique. Vous, ça fait combien de temps que c'est des choses qui vous font souci?
Moi, ça fait, je dirais quand même peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est depuis qu'on a des relations vraiment très proches avec les apiculteurs. Bon, des fois, je dis pour la boutade, mais quand les agriculteurs se parlent avec les apiculteurs, les abeilles meurent moins. Parce que des fois, il suffit de discuter 5 minutes avec un apiculteur. Des fois, pour modifier une pratique de travail... en agriculture, on utilise des produits phytosanitaires. Et bien, quand on discute avec... Enfin, ça fait des années qu'on le sait, mais voilà, on nous dit pour les abeilles, il faut traiter la nuit. OK, oui, bien sûr. Par contre, si on va traiter à minuit ou si on va traiter à 5 heures du matin, on va traiter la nuit. En discutant avec les apiculteurs, on s'est aperçu que si on va traiter à minuit, et bien, le matin, quand les abeilles vont sortir, le produit ne sera plus là. Si on va traiter à 5 heures du matin, oui, on aura traité la nuit. Par contre, quand les abeilles vont venir à 6h30, le produit sera là et on aura des soucis. Et c'est ce genre de choses, de discussions, d'expériences partagées qui font avancer les choses.
Donc vous êtes prêt à voir le travail dans la coopération avec toutes les autres professions de la vallée qui font vivre la vallée au niveau élevage et culture?
Oui, c'est évident. Et puis bon, enfin, nous, on est aussi éleveurs, on fait aussi du foin, on fait aussi des céréales. Et du coup, à partir du moment où on est sensibilisé, on fait attention de plus en plus, quoi. Pour nous, c'est devenu quelque chose d'important, quoi.
Alors votre profession, elle a évolué ces dernières années, justement, on cueillait à la main et puis on cueille plus à la main, ou en tout cas rarement. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution se profiler dans votre métier pour les années à venir?
Sur les années à venir, je pense qu'on va aller sur peut-être des nouvelles variétés, plus adaptées peut-être pour la pharmacie, pour l'aromathérapie, pour les compléments alimentaires. Alors quand je dis des nouvelles variétés, c'est pas forcément des révolutions, mais sur la lavande, on a plus de 600 variétés de lavande et aujourd'hui on en cultive une petite dizaine. Donc il y a certainement encore des choses à faire au niveau de la recherche.
Alors ça veut dire pas des nouvelles finalement vraiment variétés, mais plutôt des variétés dont on se sert pas habituellement, que vous voudriez mettre en avant et davantage cultivés?
Oui, mais les nouvelles variétés ne sont absolument pas à exclure parce que, tout à l'heure je disais que pour la récolte on n'avait pas besoin des abeilles, mais pour les nouvelles variétés, il y a deux options. C'est où on prend un scientifique avec un pinceau pour faire des croisements, ou alors c'est les abeilles. Et peut-être pas chaque année, mais très régulièrement dans la nature, on trouve des nouvelles variétés de lavande, tout simplement, qui sont issues. Enfin, pour avoir une graine, il faut de lavande et une abeille. Et justement, cet aspect pollinisation naturelle et nouvelles variétés, on a très souvent des variétés qu'on a trouvées complètement par hasard.
Et qui, du coup, sont directement adaptées au milieu, alors?
Elles sont adaptées au milieu, mais après, c'est quand même très compliqué parce que très souvent, ces nouvelles variétés, elles sont bien adaptées au milieu, mais dès qu'on les met en culture, elles ne font plus rien. Elles ne s'adaptent pas à la culture en champ. Et elles ont aussi souvent... on est aussi un petit peu difficile parce qu'on veut des variétés qui puissent être cultivées en champ, qui soient productives, qui résistent au gel d'hiver, qui résistent au sec l'été, qui aient une odeur agréable et qui aient aussi une qualité d'huile essentielle qui soit intéressante, notamment pour l'aromathérapie. Donc très souvent, on a des variétés, elles résisteront au sec, mais elles vont geler, ou alors l'odeur sera absolument désagréable. Donc c'est compliqué, quoi.
Donc faire appel à un scientifique qui vous fait la lavande parfaite, c'est quelque chose qui est envisagé?
On essaye aussi, mais plutôt des fois pour avoir pour faire avancer la recherche variétale. C'est-à-dire qu'après, scientifique, c'est un bien grand mot. Après, c'est plutôt des pépiniéristes ou des gens qui... c'est aussi un point de travail qui est fait dans l'horticulture. Voilà, des fois, quand on trouve deux, trois variétés qui nous intéressent, plutôt que... Enfin, l'abeille, ça marche très bien, mais c'est quand même aléatoire. Des fois, on prend deux lavandes qu'on trouve très intéressantes. Et ben, on se dit, si on croise ces deux lavandes, on en aura peut-être une troisième qui sera très intéressante. Donc, à ce moment-là, le plus facile, c'est de les mettre sous un petit filet. Et puis voilà, un petit pinceau et le croisement est fait.
Et de voir ce que ça donne.
Et on voit ce que ça donne. Mais ça ne marche pas tous les jours.
Bah ça, c'est la façon aléatoire dont fonctionne la nature. Quoi.
Tout à fait.
C'est comme ça. Aujourd'hui, la Drôme, me semble-t-il, vous allez me dire si je dis une bêtise, c'est un des plus gros producteurs de lavande en France. Est-ce que économiquement ou même culturellement, ça vous paraît quelque chose qu'il faut absolument faire perdurer ?
Il faut absolument le faire perdurer, mais je pense qu'on est dans la bonne voie. Aujourd'hui, la culture, enfin, quand on dit culture de lavande, c'est culture lavande et lavandin. Il n'y a que trois départements en France qui sont vraiment importants. C'est la Drôme, le Vaucluse et les Alpes d'Haute-Provence. Après, il y a un petit bout d'Ardèche, un petit peu les Hautes-Alpes. Mais voilà, c'est les trois départements principaux. Au niveau économique, c'est quand même très, très important. Dans la Drôme, on a à peu près entre 850 et 900 producteurs de plantes à parfum. Ce qui n'est pas négligeable, on a une trentaine de distilleries et on a aussi, et c'est ça qui est vraiment intéressant sur l'aspect économique, pratiquement la majorité des entreprises qui vont acheter, transformer et commercialiser les huiles essentielles. Bon, vous avez, enfin, rien que sur le secteur du Diois, on a 5 ou 6 entreprises qui travaillent les huiles essentielles. Donc au niveau économique, c'est quand même super important. Après, on a toute l'activité touristique. Tous les gens, enfin tous les touristes qui viennent dans la Drôme et dans le Diois en cette saison, eh ben, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent voir des champs bleus.
Et la distillerie, j'imagine que ça fait partie aussi des activités qu'amène du tourisme. On le sent quand ça distille, ça se sent à des kilomètres à la ronde. Il y en a qui sont ouvertes plus ou moins au public, en tout cas pas forcément qu'on puisse rentrer dedans, mais qu'on puisse voir comment se passe le travail. Et puis il y a toute une inconnue, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de cette lavande, comment ça se fait exactement, les produits qui sont faits avec. Ça aussi, ça apporte quelque chose.
Nous, on a fait le choix sur notre distillerie de l'ouvrir au public. Alors, je ne dis pas que c'est simple tous les jours, mais les gens sont quand même vraiment intéressés par cette production. Et puis là, bon, la lavande, c'est une plante emblématique, c'est une plante qui est un peu magique, parce qu'avec la lavande, on fait tout. La lavande, c'est une plante qui sert pour de l'aromathérapie, pour de la pharmacie, pour de la parfumerie, pour la cosmétique. Maintenant, on l'utilise en alimentaire, en cuisine. Voilà, c'est un petit peu le couteau suisse de la pharmacie. C'est une plante qui fait rêver aussi beaucoup de monde. Donc, les gens sont très, très intéressés. Et voilà, nous, on a choisi d'ouvrir la distillerie, de laisser les gens venir dans les champs et d'expliquer ce qu'on fait. Parce que c'est aussi intéressant pour nous de faire partager...
C'est un bon moyen de faire partager votre passion et puis surtout de transmettre des informations importantes au grand public. Enfin, ce serait difficile d'aller chercher ces infos ailleurs qu'auprès de vous, j'imagine.
C'est assez compliqué et on est assez surpris depuis 2 ans, 3 ans des questions que nous posent, les touristes. Nous, on voit vraiment une différence sur l'approche des gens au niveau du produit naturel et les gens aujourd'hui... Ils en ont marre de se faire avoir, acheter des produits dans les grandes surfaces, sur Internet. En fait, on ne sait jamais si c'est français, si c'est étranger, si c'est chinois. On ne sait jamais si c'est un produit naturel ou une synthèse bidouillée. Et depuis 2 ans, il y en a 2 questions qui reviennent, mais très, très régulièrement. C'est comment lire une étiquette et où acheter un vrai produit naturel. Ça veut bien dire que les gens voilà, ont une prise de conscience. Et aujourd'hui, le touriste, mais aussi le consommateur classique, eh ben, a besoin d'être rassuré, a besoin d'être informé. Et le fait d'aller chez un producteur et de discuter avec un producteur, eh ben, ça les rassure et ça les informe. On fait passer des messages.
Il y a une certaine confiance, du coup. C'est-à-dire que comme on se dit qu'aujourd'hui, on pense qu'on trouve tout sur Internet, mais comme vous venez de le dire justement, on n'a pas de certitude quant à l'origine des choses. Et bien là, on n'a pas de certitude quant à l'origine des informations. Alors qu'effectivement, en venant vous voir, il y a peut-être cette notion de confiance. On se dit cette personne n'a pas d'intérêt à nous mentir.
Il y a une question de confiance et puis il y a aussi une question de... Enfin, l'autre jour, il y a un touriste qui demandait à mon père, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est un gage de qualité? Et mon père, il a répondu, mais la qualité, c'est un nom et une adresse. Et sur le coup, ça m'a fait un peu rigoler, mais nous, sur nos flacons, enfin, il y a mon nom et il y a mon numéro de téléphone. Et les gens, ils me disent, mais si je ne suis pas content, je dis, mais vous me passez un coup de fil, c'est mon portable, c'est moi qui vais vous répondre. Et les gens, ils sont bluffés, parce que acheter quelque chose sur Internet, si vous n'êtes pas content, mais c'est absolument impossible de remonter et d'avoir un interlocuteur. Votre produit, si vous n'en êtes pas content, vous le jetez. Voilà, moi, quelqu'un qui n'est pas content de mon produit, je lui dis, mais vous me le ramenez, je vous le change. C'est, et là, la confiance est liée.
Oui, il n'y a pas d'intermédiaire saugrenu au milieu de tout ça.
Non.
En tout cas, justement, c'est l'occasion de le rappeler. Si les gens sont curieux et ont des questions, et touristes ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut, je pense, ignorer plein de choses au sujet de la lavande et des produits qu'on fait avec, même en habitant dans la région. Vous le disiez, la distillerie des Quatre Vallées à Chamaloc, elle est ouverte au public régulièrement. Vous avez des horaires d'ouverture, des moments où on peut venir vous voir plus facilement que d'autres?
Nous, on est ouvert tous les jours de 9h à 19h, 7 jours sur 7. Et après, si vous voulez venir plus tôt, venir plus tard... On est tout le temps là.
Ah, bon alors du coup, ils sont ouverts tout le temps, toute la nuit, toute la journée, ou presque. Merci beaucoup Alain Aubanel d'avoir bien voulu me parler de votre métier et puis surtout de cette innovation qui est hyper intéressante, qui est le chasse-abeilles sur les récolteuses et puis qui permet sans doute d'épargner des abeilles et puis de voir un avenir un petit peu plus serein, en tout cas dans les cultures de lavande dans le Diois.
Eh bien, merci bien et au revoir.
Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur notre site internet, le www.rdwa.fr. Merci d'être à notre écoute.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, 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 bzz. Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Et je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. à la ruche.